Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. Au cours de ces chroniques des petites et grandes histoires de la Basse Marche, nous avons traité des bœufs, des vaches, des veaux, des moutons, des pigeons, de la volaille, des abeilles, mais pas encore des ânes et des mulets. Nous allons le faire aujourd'hui. D'autre part, dans le domaine agricole, nous avons traité de la culture de la vigne, du lin, du chanvre, du millet, des pommes de terre, des topinambours, de la châtaigne ou du chou colza, mais pas encore de la culture du sarrasin, du maïs, de l'orge, de la baillarge, du froment, du pois, des fèves, des haricots ou des raves. Nous allons aussi le faire aujourd'hui. Ce sera notre 337e émission et notre 195e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel au préfet Texier Olivier et à sa grande enquête de 1808, à Roger Drouot et sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, à Germaine Bariteau, propos sur les vieilles coutumes de la Basse Marche, et au temps des ânes et des mulets de Gérard Chapez.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
J'aime l'âne si doux, marchant le long des houes, marchant le long des houes. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houes, marchant le long des houes. Il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles, il va près des fossés. D'un petit pas cassé, mon ami le croit bête parce qu'il est poète, il réfléchit toujours.
L'âne en Basse Marche. Voici ce que nous ont dit le préfet Texier Olivier dans son enquête de 1808. La race est petite et ses productions viennent sans aucun soin. L'âne n'est guère employé que pour le transport des denrées et pour les besoins des petits propriétaires. Il sert de monture à ceux qui ne peuvent se procurer de chevaux, et c'est bien en cela que l'âne est le cheval du pauvre. Il ajoute qu'il est particulièrement utilisé par les femmes, parce que sa marche est beaucoup plus assurée sur le bord des précipices et dans les terrains en pente que celle de toute autre bête de somme. C'est ainsi que les meuniers, dont les moulins sont en fond de vallée, utiliseront des ânes, aussi bien pour le transport du blé que de la farine. Nous y reviendrons. Roger Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous indique que les forges de Mondon utilisaient des ânes et des mulets, une centaine, pour transporter les minerais. Revenons au préfet Texier Olivier. Les particuliers des communes situées au nord de Limoges se servaient des ânes pour faire entrer du bois en hiver. Ils les louent pendant l'été pour le transport des fruits. Les ânes sont employés quelquefois au labourage, mais leur travail ne peut être que superficiel. Le malheureux cultivateur qui les applique à cet usage les fait tirer du poitrail et les attelle de front. Quand il en perd un, et qu'il n'a pas les moyens d'en acquérir un autre, il exhorte sa femme à prendre la place vacante. Il n'est pas, ajoute notre préfet, d'animal qui, relativement à ses forces, rende plus de services. Et pourtant, il n'en est pas cependant envers qui l'homme se montre plus ingrat. Sans parler des épreuves multipliées auxquelles il soumet sa constance et des coups de bâton qu'il lui prodigue, il semble qu'il lui regrette aussi une faible et mauvaise nourriture. Il ne lui donne que des fourrages dont les autres animaux ne pourront s'accommoder. Il le laisse souvent errer à l'aventure dans les landes et les bruyères à la suite des troupeaux. Il ne prend même aucun soin d'en améliorer l'espèce. C'est l'âne du moulin ou celui du rogratier qui sert d'étalon à toutes les ânesses du village.
N'a pas cette douceur,
l'âne est si doux, marchant le long des houes, marchant le long des houes. Il est l'âne si doux, marchant le long des houes, marchant le long des houes.
Dis-moi donc, ma chérie,
Si je pleure ou je ris, va trouver le vieil âne et dis-lui que mon âme.
Les ânes employés dans la Haute-Vienne, soit au labour, soit au transport des denrées, sont au nombre de 3460, et cela au début du 19e siècle. Il y avait avant la Révolution, dans la partie du Limousin qui compose le département de la Haute-Vienne, 32 ânes qui étaient destinés à la propagation des mulets. Ce nombre avait presque doublé en 1801. On en comptait 56, dont 16, dans l'arrondissement de Bellac. On sait que les mulets sont le fruit de l'accouplement d'un âne avec une jument. En Haute-Vienne, 1200 juments, étoit employé en 1789 à la production des mulets. Les mulets que l'on élevait en basse marche étaient de petite stature et d'un très bas prix. Ils ne faisaient l'objet d'aucun soin particulier. Ils suivaient leur mère dans les pâturages jusqu'à 12 ou 15 mois. Il est rare qu'on les garde au-delà de cet âge. On en réservait quelques-uns pour le service des moulins et des forges, et les autres étaient vendus aux Auvergnats, qui venaient les acheter depuis le mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juillet. Et ce sont ces Auvergnats qui en faisaient le commerce. Ils en gardaient quelques-uns et vendaient les plus beaux dans les départements du Midi, voire en Espagne. On produit environ 1700 mulets par an en Haute-Vienne. Et la femelle est toujours préférée au mâle et se vend plus cher, soit parce qu'elle est plus douce, soit parce qu'elle a des formes plus fines et plus agréables. Concernant les mulets qui transporte les minerais des forges de Mondon, Roger Drouot écrit « Ces mulets et leurs conducteurs étaient la terreur des habitants. » Une délibération de Saint-Sulpice du 13 mai 1841 dit que « Les mulets sont, pour les propriétaires cultivateurs, un véritable fléau, leurs conducteurs ne se gênant pas pour les empêcher de désastrer les champs qu'ils traversent. » On comprend pourquoi les riverains souhaitent vivement une route passant par Mondon qui permettra de faire les transports par voiture et débarrassera le pays des mulets. Pour sa part, Germaine Bariteau nous explique comment s'organiser le transport vers les moulins. À peu près tous les transports vers les moulins se faisaient à dos de mulets. Il fallait bien ménager la carriole qui, d'autre part, obligeait un parcours beaucoup plus long et qui, bien souvent, se révélait bien trop grande pour quelques sacs à conduire. D'un côté du moulin, un chemin montant, rocailleux, et de l'autre, la rivière qu'on passait en barque pendant que les mulets, chargés, la traversaient à gué. Pauvres mulets en hiver. Après le passage dans l'eau glacée, leur ventre et leurs jambes ruisselantes se couvraient de glaçons qu'ils gardaient pendant tout le trajet. Mais malin mulet, lorsqu'il s'agissait de ficeler les sacs sur leur dos, de quelle technique ne fallait-il pas user pour les empêcher de mettre leur charge à terre?
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Il est au milieu de la route, le stupide Ali Boron. Il est là qui nous écoute avec sa tête de cochon. Il poussera pas sa barbaque, il est guère accommodant. A vraiment la tête à claque, à l'âne de Buridan. A vraiment la tête à claque, à l'âne de Buridan.
Pour compléter ce panorama sur l'âne et les mulets, je vais puiser quelques informations supplémentaires dans l'ouvrage « Au temps des ânes et des mulets » de Gérard Chapez. Un chapitre s'intitule « Les quatre saisons » de l'âne des champs. Les ânes et les mulets, plus rustiques que le cheval, se contentent d'une nourriture moins riche et sont plus résistants et donc moins souvent malades. Ils vont donc pouvoir être utilisés à la ferme pour une multitude de petits travaux et seront des compagnons très utiles, voire indispensables et très appréciés. L'acquisition se fait généralement au cours d'une foire, comme pour les autres animaux. Il n'y a pas, semble-t-il, de foire aux ânes spécialisée en basse marche. Et parfois, il faut se rendre aux foires de Roche, en Creuse, ou à Céréac, en Haute-Vienne. À noter que pour travailler, les ânes et les mulets doivent être ferrés. La corne des sabots est plus résistante chez les ânes et les mulets, et le ferrage moins fréquent que chez les chevaux ou les bœufs. D'autre part, les fers utilisés sont beaucoup plus petits. L'auteur nous indique que l'âne est utilisé pour les labours, seul ou associé à un de ses compagnons, on l'attelle à la charrue, pour le binage, afin d'aérer la terre et de la débarrasser des mauvaises herbes, pour transporter le foin, pour transporter les sacs de blé au moulin ou pour transporter la farine, nous en avons déjà parlé, pour transporter le petit bois, particulièrement les fagots, pour tirer la charrette qui transportera les pommes de terre, les topinambours ou des fruits, des pommes ou des châtaignes. On se sert de l'âne à toutes les sauces, nous dit l'auteur. Attelé à une charrette, il accompagne sa maîtresse au marché ou à la foire pour vendre les produits de la ferme. Parfois, il est monté et batté. C'est qu'il transporte sur son dos et des hommes et des marchandises. On l'utilise aussi pour actionner les roues des moulins à bras. Les colporteurs les plus fortunés utiliseront des ânes pour parcourir la campagne et même la montagne. Il transportera également les fougères, les feuilles mortes, l'eau, le vin, le lait, etc., etc.
Madame lui a fait faire une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles.
L'auteur consacre également un chapitre à l'utilisation de l'âne et du mulet en ville, où ils seront présents jusqu'au milieu du XIXe siècle pour transporter le lait, l'eau de boisson, les étals des marchands ambulants, du marchand de marrons chauds par exemple, le charbon de bois, le charbon de houille, les chiffonniers utilisent parfois un âne, comme les camelots, les ramasseurs de verre. On l'utilise aussi pour la distribution du courrier, des paquets, et bien sûr, pour la promenade des enfants dans les parcs publics. Ajoutons encore que l'âne est la monture traditionnelle des curés et des moines, et même du pape, la fameuse mule du pape. L'âne, précise l'auteur, est de toutes les fêtes, et particulièrement de la fête de Noël, entre le bœuf et l'âne gris. Mais il fut pendant longtemps la monture du Père Noël ou de Saint Nicolas. Il est aujourd'hui détrôné par les rennes. Enfin, un dernier paragraphe est consacré à l'utilisation de l'âne dans l'armée. On utilisera des ânes pour transporter les vivres, voire les munitions. C'est ainsi que pendant la guerre de 14-18, les ânes et les mulets assureront ce service dans les tranchées.
Sur tes pattes, je dévale les sentiers dès le matin. Bougre d'âne, je suis âne, nous ne formons qu'un. Car je trime dès l'aurore et te fais trimer encore. Au lieu de me prélasser à l'ombre d'un figuier. Bougre qui me tient compagnie dans le sentier de la vie. Je me demande.
L'âne est aussi utilisé pour les produits qu'il procure. Par exemple, le lait d'ânesse. On utilise le lait d'ânesse pour l'alimentation des nourrissons. En effet, la composition du lait d'ânesse se rapproche du lait de la femme. L'ânesse donne environ 3 à 6 litres de lait par jour. Le lait d'ânesse est très nutritif car il contient plus de lactose et moins de matière grasse que le lait de vache. Le lait d'ânesse était également réputé pour sa qualité dans les soins esthétiques et les textes de l'Antiquité nous rapportent que Cléopâtre l'utilisait en bain pour ses soins de beauté. Il ne fallait pas moins de 200 ânesses en lactation pour lui fournir le lait nécessaire à ses bains. Ce lait est aujourd'hui encore utilisé pour la production de savon et de savonnette. Le fumier. L'âne produit un fumier utilisé pour l'amendement des sols cultivés. Ce genre de fumier est un fumier chaud, par opposition au fumier dit froid des bovins ou des porcins. Il est particulièrement recherché dans les terres froides et humides. La peau de l'âne très fine, très solide, dure et élastique, servait autrefois tannée à fabriquer tambours, cribles, souliers, ainsi qu'à la fabrication des parchemins. Enfin, la viande. Traditionnellement, la viande était utilisée en charcuterie.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
nous allons maintenant nous intéresser à quelques végétaux et d'abord au froment et au sarrasin. La culture du froment au début du 19e siècle est extrêmement réduite en Basse-Marche, sauf dans la zone de Mézières, de Bussières, du Dorat, de Darnac, de Saint-Bonnet et de Berneuil. Les terres ne sont pas assez amendées et il est souvent semé dans des terres qui ne lui conviennent guère. Par contre, le sarrasin, ou blé noir, est cultivé sur tous les points du département. Les terrains les plus arides lui suffisent pourvu qu'ils soient humectés par la pluie. D'autre part, il se passe facilement de l'opération du sarclage. S'il a flétri par la chaleur ou la sécheresse, il semble renaître au premier rafraîchissement qu'il reçoit. On dit vulgairement qu'il peut ressusciter 9 fois. Il croît ordinairement jusqu'aux premières gelées d'automne et produit jusqu'à 30 grains pour 1 grain lorsque le temps ne lui est pas défavorable. Sa fleur est aussi d'un grand secours pour nourrir les abeilles. Quant à sa graine, on ne l'emploie presque jamais pour faire du pain. On en fait des galettes ou des crêpes qui, dans l'été, sont le mets favori des gens de campagne. Le blé noir sert encore à la nourriture des volailles et des cochons. On se sert de la balle du sarrasin pour protéger les racines aqueuses des rigueurs de l'hiver. Ajoutons que le sarrasin est aussi un excellent engrais. Il suffit d'enterrer cette plante rameuse avec la charrue avant qu'elle ait atteint sa maturité. Certes, on perd une récolte de sarrasin, mais on obtiendra une très abondante récolte de seigle.
Voudrais-tu savoir comment semer l'avoine ?
Voudrais-tu savoir comment semer l'avoine ?
Sème de ci, sème de là, moulinette moulinera. Frappe les pieds, tape les mains, on en parlera demain.
Avoine, avoine, quand tu seras au grenier. Belle avoine, quand tu seras au grenier.
L'avoine que l'on cultive en Basse-Marche est la grosse avoine d'hiver et sa production est assez faible et ses grains d'assez médiocre qualité. On n'en sème guère que dans les terrains qu'on se dispose à laisser chômer. Notons qu'il convient d'en renouveler souvent la semence si l'on veut empêcher qu'elle ne se dégénère. Quant à l'orge, il ne se cultive que dans les meilleurs fonds à la proximité des villages. On n'en sème ordinairement que dans les temps de disette, où il peut fournir quelques ressources en ce qu'il mûrit plus tôt que les autres grains. On coupe parfois l'orge en verre pour les animaux. Quant à la baillarge, elle est encore moins cultivée que l'orge d'hiver. Elle a la réputation de trop fatiguer les sols au point que les semences qui lui succèdent ne peuvent prospérer. Le maïs, ou blé de Turquie, n'est pratiquement pas cultivé en Basse-Marche. Il exige des terrains riches et on l'accuse d'épuiser et d'appauvrir la terre. Les pois ne sont cultivés que dans les jardins. On ne sème les fèves et les haricots que dans quelques terres privilégiées. Par contre, les raves ou navets plats prospèrent dans toute la Basse-Marche et dans toutes les exploitations. Il en est qui parviennent à un volume monstrueux, celles du poids de 5 kg ne sont pas rares. On garde dans chaque domaine environ un demi-hectare du meilleur terrain pour la culture de cette plante. Elle plaît infiniment aux bestiaux et les porte à la graisse. Les hommes la mangent avec plaisir lorsqu'elle est bouillie et surtout dans la soupe. Notons que les terrains granitiques et légers sont favorables aux raves et qu'elles aiment la compagnie des autres plantes. C'est dans les champs ensemencés de sarrasin que l'on voit les plus belles raves. L'abri qu'ils leur procurent les préserve de la sécheresse qui leur est ordinairement pernicieuse. Notons encore que la rave n'occupe la terre que pendant 4 mois, depuis le commencement de juillet jusqu'à la fin d'octobre.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche qui fut consacrée au cheval du pauvre, l'âne, jadis en basse marche, et à quelques cultures oubliées. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie du préfet Texier Olivier, de Roger Drouot, de Germaine Barito et de Gérard Chapez. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au compositeur René Aubry, au chanteur Jean Ferrat, Guy Béard, Zabou, Michel Bernard, qui nous interprétait un poème de Francis James, au groupe Maluzerne et La Lampe à Folk, qui, après avoir interprété Une bourrée à deux temps, nous présente maintenant cette mazurka de l'automne. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempoix et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Thank you.
petites et grandes histoires de la basse marche.